ce soir, poursuite de notre sélection, notre florilège des meilleurs enregistrements live de l'histoire du rock, mais pas seulement, il y aura aussi de la soul. Allez, c'est parti. Applaudissements d'un public choisi en petit comité composé en partie des amis du groupe Nirvana, ben, facile à reconnaître, réunis autour des musiciens un soir de novembre 1993 dans un studio de Manhattan à New York évidemment, où la chaîne MTV avait installé ses équipes et caméras afin d'enregistrer et filmer un numéro spécial de la série Unplugged, Unplugged comme débranché, très populaire dans ces années-là, puisque un an auparavant, Eric Clapton avait ainsi relancé une carrière enlisée en se prêtant au jeu de la série qui exigeait le recours exclusif à des instruments acoustiques, enfin en tout cas à l'amplification réduite. Quelques mois d'ailleurs après la mort tragique de son petit garçon de 4 ans, Clapton était apparu dans cette ambiance intime comme un autre homme transcendé. Il avait notamment chanté une version extraordinaire de la chanson Layla, et l'album que Clapton avait tiré de ce concert privé avait obtenu 6 Grammy Awards. Et d'ailleurs, il reste un des albums live les plus vendus et écoutés au monde, ce qui est aussi le cas de celui de Nirvana, qui est sorti, lui, fin 1994, soit 6 mois à peine après le suicide de Kurt Cobain, sous le titre de MTV Unplugged in New York. Et sur lequel, d'ailleurs, comme beaucoup de passionnés, je m'étais précipité dès sa sortie. Alors, la chanson qu'on vient d'entendre, About a Girl, celle par laquelle débutait le concert, un choix qui, comme on dit, annonçait la couleur, puisque About About a Girl est une chanson qui figurait dans Bleach, hein, c'est le premier album de Nirvana qui est sorti en 1989 et qui détonnait par rapport à l'ensemble. Nerveuse, oui, elle l'était cette chanson, mais très mélodieuse, on aurait dit une chanson des Beatles de la première période, interprétée par le groupe R.E.M., hein, R.E.M., auquel faisait beaucoup penser parfois certaines chansons de Nirvana. Alors la semaine dernière, on a beaucoup parlé de Dave Grohl, enfin on l'a écouté surtout, hein, Dave Grohl qui fut le batteur de Nirvana avant de créer le groupe Foo Fighters, et About a Girl est la chanson de Bleach que préférait Grohl, qui ne s'était pas encore joint au groupe, évidemment, au moment de l'enregistrement de ce premier album. Et comme il l'a dit, brusquement, dans cet album grunge, surgissait une chanson pop. Lui, il trouvait ça génial, c'était évidemment son goût. En revanche, la communauté underground qui se reconnaissait dans le mouvement grunge ne s'y retrouvait pas trop. De fait, Cobain avait l'esprit de contradiction. Quand, grâce à Smells Like Teen Spirit, Nirvana était devenu soudain, en 1992, le groupe à la mode, diffusé sur toutes les radios, il avait souhaité enregistrer en réaction l'album le plus violent possible, In Utero, au son brutal hérissé de cris et d'aspérité. Et après ça, outre virage à 180 degrés, pour sa prestation donc à l'émission MTV Unplugged, Cobain est assis, le plateau est décoré de bouquet de fleurs, il a convié un autre guitariste, Pat Smear, et puis ses deux copains, les frères Kurt et Chris Kirkwood, du groupe Meat Puppets, dont le grand public n'a absolument jamais entendu parler. Il y a aussi une violoncelliste, et Cobain, très sobre, chante une mélodie de David Bowie, The Man Who Sold the World, interprétation magique, et il reprend un vieux blues, dont là aussi, il livre une interprétation déchirante, Why Did You Sleep Last Night, tout ça est très connu. Alors j'ai eu la chance de voir Nirvana, c'était au Trans musical de Rennes en 1991. D'ailleurs, je m'étais déplacé spécialement pour les voir. C'était en fait l'ultime chance de les voir et de les entendre dans une salle à dimension humaine, parce qu'on savait que ça allait devenir énorme, et de fait, c'est devenu énorme. Alors, je me rappelle que le concert était très bon, mais enfin que le groupe était quand même fatigué. D'ailleurs, c'est une image qui m'est restée à la fin. Alors, je sais plus si c'était Novoselic ou Grohl, mais à la fin du concert, donc l'un des deux a sorti carrément Cobain de scène dans ses bras, comme un enfant qu'il fallait mettre au lit. Voilà, voilà. Alors, c'était comme ça. Autre grand souvenir de scène des années 90, Jeff Buckley. Je l'ai vu deux fois. Alors, la deuxième fois à l'Olympia, je sais plus si c'était 95 ou 96, je crois 95. Alors, c'était carrément c'était la Beatlemania. On pouvait plus l'entendre chanter tellement les gens hurlaient. Alors, j'ai trouvé un enregistrement réalisé en janvier 1995 par Jeff Buckley pour une radio japonaise. La chanson est une de ses plus mémorables, Last Goodbye, et c'est une version unplugged, enfin acoustique si vous préférez. Et voilà, bah, je vous propose ça ce soir, c'est dans Very Good Trip sur France Inter, exclusivement du live ce soir. We'll be right back.
Very Good Trip, Mishka Assayas.
Meilleure chanson de l'anglais Morrissey, Jack the Ripper, interprétée il y a près de 30 ans, en décembre 1992, sur la scène du Zénith de Paris. Alors, il en existe une version en studio, mais celle-ci qui est live est franchement meilleure. Alors, c'est la période où Morrissey, associé à deux guitaristes et compositeurs qui avaient créé dans les années 80 à Londres un groupe de rockabilly à l'image des Stray Cats, hein, c'était la mode début des années 80, avait entraîné Morrissey vers un style plus puissant qu'avec les Smiths, enfin moins délicat, estimé et ceux qui faisaient alors la fine bouche. Bon, c'est vrai que les Smiths c'était unique. Un style au fond proche du glam rock, des débuts de l'adolescence de Morrissey. Il se référait d'ailleurs beaucoup au premier Bowie, voire à des groupes de la période, des groupes qu'adoraient les enfants comme The Sweet. En tout cas sur scène ça faisait des étincelles, et cette chanson, Jack the Ripper, ce dialogue entre Jack l'éventreur et une de ses victimes potentielles, c'est un peu la version gore du petit chaperon rouge face au loup déguisé en Mère Grand, et avec la voix de crooner doucereuse comme ça de Morrissey par-dessus, l'effet glaçant était certain. Ça laisse d'ailleurs songeur quand on repense à ceux qui taxaient alors Morrissey de mièvrerie, alors que c'est absolument le contraire, puisque chez lui la douceur a toujours voisiné avec l'angoisse et le cauchemar, ce qui mériterait sûrement d'être psychanalysé. Alors je vous rassure, c'est pas mon rôle, en tout cas pas sur cette antenne. Voilà, un autre genre à présent, un autre siècle, quoique la voix qu'on va entendre soit celle d'un poète, chanteur et performeur qui a émergé bien une dizaine d'années avant Morrissey sur un autre continent. Alors j'ignore si vous avez eu le bonheur dans votre vie d'assister à un concert de Tom Waits, c'est de lui qu'il s'agit. C'est une expérience inoubliable. Sa voix a quelque chose d'unique, c'est une sorte de grondement qu'on dirait sortant de la gueule d'un chien préhistorique. On pense au blues, mais en fait ça a l'air de venir d'un temps immémorial où nos ancêtres parcouraient encore terre et mer à la recherche de leur pitance, voilà, attaqués par les bêtes sauvages, voilà, en des temps encore effrayants. Et enfin, mais plus encore qu'un chanteur, Tom Waits est une présence, c'est un comédien. Il a d'ailleurs un physique à la Chaplin. Il est capable de camper sur scène toutes sortes de personnages, souvent d'ailleurs désaxés. Je sais pas, un clochard ivrogne, un prophète des rues maudissant les hommes, les femmes, Dieu, enfin tout. Un vieillard retombé, édenté, retombé en enfance, enfin tout. Il est capable vraiment de se mettre dans la peau de personnages absolument hallucinants. Et enfin, en tout cas, Tom Waits, c'est un des très rares génies que j'ai eu la chance de voir sur une scène, et sa connaissance du blues, du jazz et de musiciens et compositeurs excentriques comme Harry Parch, un compositeur à part, inventeur d'instruments biscornus, est infini. Alors, il y a un excellent guitariste de Los Angeles qui s'appelle Omar Torres, qui a accompagné en tournée Tom Waits à travers le monde, c'était en 2008. Et la dite tournée a fait l'objet d'un double CD live qui est paru en 2009, qui s'appelle Glitter and Doom Live, et qui assemble donc les meilleurs moments de cette tournée. Voici Tom Waits dans une ambiance électrique sur une scène de Tulsa dans l'Oklahoma. La chanson s'appelle Going Out West. I'm no karate, I'm no voodoo dude.
good without a shirt. Well, I'm gonna drive all night and get ready for speed. I'm on the way till the sun is shining down on me. I've got a hole in my roof, the shape of a heart.
Tell you about a girl. Sounds absurd. But I can hear the most melancholy sound I ever heard. Walk a cry.
Acclamé par le public, c'était soit en Europe, soit en Australie. Difficile d'avoir une certitude. En tout cas, c'était lors d'une tournée en 1992 avec son groupe les Bad Seeds. Et la présence du guitariste berlinois Blixa Bargeld, incapable de faire résonner son instrument comme une espèce de mystérieux engin de chantier, combiné à l'attaque extrêmement brutale, percussive, hein, comme on dit, de Nick Cave au piano, atonal, donne à ce titre une intensité qu'on ne trouve pas du tout dans l'enregistrement initial en studio de From Her to Eternity, qui est paru en 1984. Cette version qu'on vient d'entendre figure dans le premier des albums live. Alors, il y en a eu plusieurs publiés par Nick Cave avec les Bad Seeds, Live Seeds, qui est paru en 1993. Alors, j'ai découvert que tardivement, Nick Cave sur scène, je l'ai vu plusieurs fois, ça a toujours été un choc. La dernière fois, c'était au Grand Rex à Paris en 2006. C'est, ben voilà, je sais pas pourquoi je le dis, mais enfin, c'était un concert très, très mémorable. En tout cas, pour moi. J'ai découvert que, c'est pas le hasard qui me l'a fait rapprocher de Tom Waits, même approche théâtrale de la musique, même aptitude chez Nick Cave à donner corps à des personnages inquiétants et désaxés. Alors, il y a peut-être plus d'humour en apparence dans l'approche de Tom Waits, mais enfin, c'est à nuancer parce qu'il y a une autre forme d'humour chez Nick Cave, un humour noir, évidemment, grinçant et sarcastique, quand il incarne, par exemple, un personnage de prédicateur dérangé, capable d'éructer des obscénités. Et d'ailleurs, lors de ses débuts sur scène en Europe, à Londres, Nick Cave, dans un état extrêmement malsain, insultait le public, il devait trouver ça absolument hilarant, à sa façon, un peu comme les alcooliques et les drogués agressifs qui rident leurs propres blagues pourries. Et puisque j'en suis à parler de ce qui peut faire sourire chez Nick Cave, je pense à une chanson qu'il a faite avec le groupe Punk Blues qu'il a créé à la fin des années 2000, Grind the Man. Il y avait une chanson marrante, je me souviens, où il se mettait en scène en rockstar vieillissante, ça s'appelle No Pussy Blues, où il disait en gros, voilà, ma belle gueule a disparu, mon corps, n'en parlons plus, et pourtant je suis encore sur scène. Alors, je repère une fille dans le public, je cours vers elle, je lui propose de l'emmener à la maison, mais elle me dit non, elle veut pas, et ça continue comme ça. Et voilà, le personnage du chanteur rentre chez lui, voilà, avec sa bite sous le bras, hein, comme chantait Jacques Brel. Alors ça s'appelle No Pussy Blues. Bon, je traduis pas, il y a des limites. Il faudra d'ailleurs que je la diffuse un jour. Alors je vais pas m'en cacher, un des groupes que j'ai le plus vu sur scène, eh bien c'est U2. D'ailleurs, c'est toujours l'argument que j'emploie vis-à-vis de ceux, et j'en connais, qui sont rétifs, voire hostiles vis-à-vis de ce groupe. Je leur dis, allez les voir sur scène au moins une fois, et vous verrez les choses autrement. Bon, là, dans l'immédiat, il n'y a pas d'occasion qui se présente. Alors, vous savez, il y a régulièrement des listes qui circulent sur des sites spécialisés dans la musique, les 50 meilleurs guitaristes, les 50 meilleurs albums de soul, et il y a aussi, évidemment, les meilleurs albums live de tous les temps. Évidemment, je les ai consulté avant de préparer cette série d'émissions. Et il y a un album qui est mentionné régulièrement, c'est le mini-album de U2 qui s'appelle Under a Blood Red Sky, qui est sorti 8 chansons enregistrées, sorties en 1983, ouais, c'est ça, 1983, et c'est un collaborateur de John Lennon, ingénieur du son à l'origine, l'américain Jim Iovine, devenu un immense ponte de l'industrie musicale aux États-Unis, qui a supervisé l'enregistrement des concerts de U2, concerts qui correspondent à la phase dite, entre guillemets, héroïque du groupe, qui lui a valu évidemment bien des sarcasmes. C'est vrai, en ce temps-là, Bono se démenait comme un acharné, il fonçait dans la foule avec un drapeau blanc, il se faisait bousculer, malmener, une fois il s'est même battu, et il y avait en lui comme une rage désespérée. Et même s'il n'y a pas les images, il y a quelque chose d'unique qui passe dans l'enregistrement de cette chanson, le premier hymne de U2, I Will Follow. C'était dans une petite salle de Rhénanie, près de Koblenz, à l'été 1983. We'll be right back. Et non, c'est pas une chorale de football qu'on entend qu'on n'en soit pas loin, mais la foule du stade de Wembley, hein, dans la banlieue de Londres, acclamant Oasis un soir d'été en 2000, alors que le groupe était au sommet de sa forme et au pinacle de son succès. La chanson est d'ailleurs une des meilleures de Oasis, Acquiesce. À l'origine, c'était une face B, hein, comme on disait, alors que pourtant les CD n'avaient qu'une seule face. Enfin, une chanson qui complétait un single de 1995. Cette soirée de Wembley a été immortalisée dans un album live qui s'appelle Familiar to Millions, qui est sorti donc fin 2000, et qu'on retrouve fréquemment mentionné dans une de ces fameuses listes dont je vous parlais. Voilà, il nous reste à peu près un quart d'heure d'émission. Je vous avais promis de vous faire vivre une sorte de soirée live idéale pour vous envelopper de chaleur, d'enthousiasme et d'énergie. Et bien voici une sorte de rave party imaginaire pour terminer en beauté. Non, alors c'est, voilà, ce ne sera pas des sons extrêmes, ça sera assez consensuel. Un extrait d'abord du magnifique concert qu'a donné il y a 10 ans le New Yorkais James Murphy et son groupe LCD Sound System. C'était au Madison Square Garden de New York. LCD Sound System, alors franchement, c'est un de mes meilleurs souvenirs de concert. La chanson s'appelle Get Innocuous, c'est comme une transe. Après, il y aura Daft Punk. Et pour finir, Beyoncé, bah oui, je vous disais, c'est consensuel. Et pour citer un de mes professeurs que j'admirais profondément, n'oubliez jamais les évidences. Et ben voilà.
Paris Go Trip sur France Inter.
Ensuite, Beyoncé pour terminer cette soirée avec Crazy in Love dans un album live, c'est Homecoming Live.
Coachella, you ready? Let's go get on.
So deep in your eyes, I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2-3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling and my pride is the one to blame. Yeah, I still don't understand just how you look at doing no one else can.
Crazy right now, you're right. drop it.
My friend so quietly.
Who we think he is?
Look at what you did to me. Tennis shoes don't even need to buy a new dress. You ain't there, ain't nobody else to impress. It's the way that you know what I thought I knew. The beat in my heart, cause when I was true, I still don't want to say just how you love could do, no one else can.